Salon Noir. Après la Tunisie et l'Égypte, la révolution arabe bouleverse aujourd'hui la donne, du Maghreb au détroit d'Hormuz. Rappelons les récents événements qui touchent le petit émirat de Bahreïn, le Yémen, mais aussi le sultanat d'Oman. Toutefois, tous les regards sont aujourd'hui tournés vers la Libye et le régime vacillant de Muammar Kadhafi. Cette Libye, son passé, sont justement le thème du Salon Noir d'aujourd'hui. L'occasion de saluer la mémoire d'André Laronde, récemment décédé et directeur de la mission archéologique française créée par le ministère des Affaires étrangères. André Laronde avait beaucoup œuvré pour le rapprochement des relations franco-libyennes et s'exprimait généralement peu à propos de la politique interne du pays. Aujourd'hui, mon invité est Claude Sintès, qui travaille depuis 1983 en Libye, notamment sur les fouilles sous-marines du port d'Apollonia. Claude Sintès, bonjour.
Bonjour.
Conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée de l'Arles antique, qui conserve la fameuse tête de César, récemment découverte dans le Rhône. Vous venez de publier un bel ouvrage, La Libye antique, un rêve de marbre, à l'Imprimerie nationale. Peu de gens le savent, les deux grandes colonnes de marbre qui ornent l'église de Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris sont romaines. Elles proviennent surtout d'une cité du littoral libyen, preuve d'un ancien pillage, mais aussi de la qualité des marbres de cette région. Claude Sintès, l'archéologie a été prise à partie dans cette révolution arabe. Des vols ont été pratiqués dans le musée du Caire, tandis que l'on découvre que Ben Ali avait partiellement détruit des vestiges de Carthage au profit d'un aménagement immobilier. Qu'en est-il pour la Libye ?
Alors pour la Libye, j'ai peu d'informations en raison de la situation, mais les quelques amis que j'ai pu avoir là-bas m'ont informé que les zones principales, les sites principaux se trouvaient en dehors des zones de combat et que donc pour l'instant, il n'y a pas de soucis apparemment en cours là-bas. Dans les musées, eh bien, hélas, il faudra attendre que tout cela soit calmé pour que l'on puisse faire un inventaire véritable et voir si certains n'ont pas profité du brouhaha et des difficultés pour pouvoir récupérer quelques pièces. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant, je dois dire.
Le passé, l'archéologie, compte pour le Libyen moyen ?
Alors, pour le Libyen moyen, sans doute pas, mais il y a une classe de jeunes gens éduqués qui sont très intéressés par le passé, et toute période confondue, si je puis dire, pas seulement une période qui pourrait leur être proche, celle de l'islam ancien, mais aussi celle de la période grecque et romaine, puisqu'il y a des universités qui dispensent des cours, notamment à Benghazi, l'université Garyounis, où il y a une chaire d'archéologie classique.
Ramsès et Toutankhamon pour l'Égypte, mais aussi Carthage pour la Tunisie, Juba et le tombeau de la chrétienne, le mausolée royal de Mauritanie, sont des éléments identitaires donc pour ces pays. Qu'est-ce qu'il en serait pour la Libye ?
Oh, je pourrais dire sans doute Septime Sévère. Septime Sévère a été l'empereur qui est né en Libye, très exactement à Leptis Magna, et qui a permis de faire le pont, si je puis dire, entre ces grandes familles issues du monde punique qui vivaient en Libye donc à l'époque romaine, et Rome elle-même, puisque une partie de sa famille vivait et a fait sa carrière sur Rome. C'est donc un peu quelqu'un qui fait le passage entre ces deux franges méditerranéennes. Je pense que c'est peut-être un symbole intéressant.
Alors, Septime Sévère, d'après mes souvenirs, on est dans les années 200, c'est à peu près ça, 200
oui,
après Jésus-Christ, hein, de notre ère. Forcément, une riche famille libyenne qui a forcément aussi des ponts à Rome.
Oui, ce sont des gens qui sont évidemment très impliqués dans la société romaine. C'est une famille qui va donner des sénateurs, c'est une famille qui va donner des gouverneurs généraux, dirions-nous aujourd'hui, hein, des légats de l'empereur. Et ce sont des gens qui vont peu à peu mettre en place un système qui va leur permettre d'arriver jusqu'à l'Empire. Septime Sévère est certainement revenu dans sa ville, sans doute en 203, pense-t-on, puisque c'est à ce moment-là que l'on a un arc très important qui a été créé à Leptis Magna. Et certains chercheurs pensent que ça a été fait à l'occasion de la venue de Septime Sévère dans sa ville natale. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, Septime avait toujours un œil très proche de la Libye. Sa mère, d'ailleurs, a gardé l'accent libyen. Et les textes nous disent que lorsque sa mère parlait à la cour, donc à Rome, eh bien, on se moquait en douce de son accent punique, un peu comme on se moquait de la mère de Napoléon à la cour française, donc bien des années plus tard.
En tout cas, si Septime Sévère compte pour les Libyens, c'est probablement qu'il a laissé une œuvre importante dans le pays.
Oui, Septime Sévère a notamment paré de marbre et refait complètement tout l'urbanisme de villes comme Leptis Magna. Et les vestiges de Leptis Magna que certains de vos auditeurs ont dû visiter sont tout à fait exceptionnels, dans le sens où l'on a une véritable capitale de marbre qui va s'installer au milieu des sables. Et cette ville, qui était déjà assez importante pour l'époque d'Auguste, puis ensuite pour l'époque de Tibère, va devenir l'équivalent de Rome, avec un port qui sera aussi grand que le port d'Ostie, ce qui n'est pas rien.
Hormis Septime Sévère, le pouvoir du colonel Kadhafi s'est-il partiellement appuyé sur le passé ?
Alors, c'est difficile de le dire. En tout cas, les vestiges n'ont jamais été abîmés. Au contraire, ils ont été mis en valeur, gardiennés. Mais on peut dire que le pouvoir peut-être s'intéresse plus précisément aux vestiges du monde de l'islam. En tout cas, les équipes libyennes et étrangères, dont l'équipe française, vous saluiez tout à l'heure à juste titre la mémoire du professeur Laronde, ont fouillé depuis de fort nombreuses années, et surtout depuis les années 80. Il y a eu là de nombreuses équipes qui ont pu travailler.
Et au niveau de la géopolitique archéologique, on pourrait dire que c'est surtout des équipes italiennes qui ont travaillé en Libye. Les Italiens ont toujours été très intéressés par la Libye.
Oui, les Italiens, c'est l'ancienne puissance coloniale. Puisque les Italiens se rendent en Libye et prennent ce pays en 1911. Et très très rapidement, ils vont comprendre l'intérêt archéologique du pays. Des fouilles vont être conduites dès les années 20 dans des sites comme Cyrène, par exemple, puis ensuite Leptis Magna. Et les Italiens vont mettre en œuvre, si j'ose dire, une archéologie politique. Et il est clair que lorsque les équipes de Mussolini était en train de dégager des vestiges, c'était avant tout pour bien montrer que Rome avait déjà mis le pied en Libye bien avant tout le monde. Et que donc, s'il y avait une sorte de justification, on peut gloser hein, historiquement, ce n'est pas une position de ma part, vous vous en doutez, mais les Italiens disaient à cette époque qu'il y avait une sorte de justification pour eux à être la puissance coloniale, puisque leurs ancêtres avaient été là présents. Et le pouvoir de Mussolini va procéder à ce que l'on appelle aujourd'hui une anastylose, c'est-à-dire la restitution en grandeur réelle et avec les matériaux trouvés sur place d'un monument ou d'un autre, et la restitution, donc l'anastylose, pour employer ce mot savant, du théâtre de Sabrata ou des grands thermes de Leptis Magna, quelque chose d'absolument somptueux et qui donne vraiment une idée de la puissance romaine comme peu de sites peuvent le montrer.
La Libye antique, c'est avant tout deux régions et deux régions qui s'opposent.
Oui, alors la Libye antique, ce sont deux régions, puisque vous avez à l'est la Cyrénaïque, qui est une région toute grecque, si je puis dire. C'est un endroit qui va être conquis par les Grecs, qui vont installer là une colonie. Et de l'autre côté, dans le monde punique, vous avez les villes de Leptis Magna, de Sabrata ou d'Oea, l'actuelle Tripoli ayant recouvert Oea, qui seront, elles, dans l'orbite du monde punique et plus exactement carthaginois. Et ces deux entités, si vous voulez, de régions vont être effectivement bien différentes par leur géographie, par leur système politique ancien et aussi par les vestiges que l'on y trouve aujourd'hui.
Et le tout est bien sûr séparé par le golfe de Sirte, cette région marécageuse faite de sépras, d'anciennes lagunes mortes, c'est bien ça, où quantité de bateaux sont venus s'échouer, et cela depuis l'Antiquité ?
Oui, tout à fait. Le golfe de Sirte, que Julien Gracq chantera bien plus tard, est un lieu tout à fait étonnant, puisque on parcourt des centaines de kilomètres dans les sables, avec la mer d'un côté, le désert de l'autre. Et dès l'Antiquité, c'était des zones qui étaient très mal famées, et des historiens comme Salluste ou comme d'autres vont nous dire à quel point le navigateur redoutait d'être pris par la tempête devant ses côtes, parce que on était perdu sans aucune chance de pouvoir s'en sortir, vu que l'on était coincé complètement entre la mer et les sables, avec des bancs divagants, et il y a certainement beaucoup d'épaves à fouiller là-bas, oui, si nous en avions le temps et la possibilité.
Cette diversité entre Cyrénaïque et Tripolitaine, cette opposition ancienne, est-elle toujours visible dans la Libye contemporaine ? Probablement pas, non ? Alors, l'unité a été faite depuis longtemps ?
Oui.
Depuis Rome ?
Oui.
Depuis voilà, l'islam aussi, d'ailleurs.
Exactement, il y a eu une unité à l'époque de Rome, il y a une unité de l'islam, il y a l'unité actuelle qui est mise à mal, hein, comme on le voit. Et là, ça nous remène à l'actualité. Mais ce qu'on peut sentir, c'est que effectivement, quand on passe de Tripolitaine en Cyrénaïque, on sent quand même que l'on change d'état d'esprit, sinon de pays. D'un côté, on a des plaines littorales très rougeâtres, avec des djebels lointains, une ambiance assez aride, et puis des grands vestiges romains très monumentaux. De l'autre côté, lorsque l'on arrive en Cyrénaïque, on a l'impression d'arriver en Grèce ou en Crète. D'ailleurs, les Arabes appellent la zone de Cyrénaïque Djebel Hagdar, ce qui veut dire la montagne verte. Et vous êtes réellement pas loin de Corinthe, pas loin de Delphes, avec des vallons parsemés d'oliviers, avec plantes méditerranéennes typiques et des ruines au milieu qui ponctuent le paysage, un peu comme dans un paysage de rue d'Hubert Robert. C'est tout à fait charmant.
Que reste-t-il des premières implantations grecques de Cyrénaïque, Claude Saintès ? Implantations très précoces, semble-t-il, vers les années 640 avant notre ère.
Oui, tout à fait. Les premières implantations ont lieu à cette époque, vers 640-630. Il s'agit d'implantations grecques qui avaient été faites au titre de la colonisation. Les Grecs souhaitant pouvoir avoir des lieux de vie, de nouveaux lieux de vie, allaient consulter l'oracle de Delphes et poser la question en disant où pouvons-nous aller, etc. Donc il y a eu toute une histoire des oracles qui montre que on avait des informations qui parfois étaient un petit peu difficiles à comprendre et qui parfois menaient sur des fausses pistes. Et c'est ce qui va arriver avec les guerriers du roi Batos. Ce sont des Téréens, c'est-à-dire des gens qui habitaient aujourd'hui l'île de Santorin. Et ces Téréens vont donc être envoyés par Apollon vers la Libye. Mais ils vont se tromper de chemin et ils vont se retrouver dans des zones qui sont complètement arides. Et ils vont revenir jusqu'à Delphes en disant « Écoutez, on ne peut pas mettre une colonie là-bas, on ne peut pas vivre puisqu'il n'y a rien. » Et à ce moment-là, Apollon, nous disent les textes, va se moquer d'eux en leur disant « Puisque vous connaissez mieux la Libye que moi, eh bien vous n'avez pas besoin de venir me demander mon avis. » À ce moment-là, ils comprennent que c'est vraiment une erreur. Donc, ils repartent vers la Libye et à ce moment-là, ils font tête en Cyrénaïque, au bon endroit. Je passe sur les détails, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ils arrivent en Cyrénaïque et on va pouvoir installer une colonie Cyrène sur des terres qui sont extrêmement riches. Hérodote nous disait que les terres cyrénaines étaient tellement riches qu'on pouvait avoir 3 récoltes par an. Et peu à peu, tous les jeunes gens qui souhaitent tenter l'aventure viennent depuis Théra, donc depuis Santorin, depuis le Péloponnèse, depuis les îles, viennent en masse vers la Libye pour s'installer. Et à ce moment-là, on connaît des problèmes avec les tribus locales qui voient ça d'un mauvais œil, alors qu'au début, ça se passait bien. Et peu à peu, cette colonie fait tache d'huile jusqu'à occuper tout ce plateau cyrénéen, donc ce que l'on appelle aujourd'hui le Djebel Hagdar, comme je le disais.
Ce sera par exemple la création de la cité de Cyrène. Que reste-t-il aujourd'hui de cette cité ? Que peut-on y voir, encore y découvrir ?
Alors Cyrène, c'est une grande cité de l'Antiquité qui occupe un espace très vallonné, coupé de Thalweg et qui donne une architecture encore très présente avec bien sûr tous les temples que l'on peut imaginer, hein, notamment dans le sanctuaire d'Apollon, vous avez une série de temples tout à fait étonnantes, mais on a aussi le plus grand temple consacré à Zeus, le plus grand temple tout court d'Afrique, puisque le temple de Zeus qui se trouve à Cyrène est aussi grand que le temple de Zeus qui se trouve à Olympie, ce qui n'est pas rien. Et il est restauré depuis quelques années par les équipes italo-libyennes. Et donc, on a vraiment quelque chose de majestueux au milieu d'une végétation très abondante. Donc, c'est vraiment un site remarquable qui fait penser à Delphes. On a vraiment l'impression d'être à Delphes avec des collines qui s'étagent face au grand paysage, un superbe paysage qui va jusqu'à la mer. Et là, on a des vestiges qui sont bien mis en valeur. On peut imaginer que les Téréens aient souhaité rendre hommage à Apollon en retrouvant quelque chose de Delphes dans leur propre cité.
Pour illustrer la richesse de cette région, parlons bien sûr de marbre, deux m'ont paru très beaux. Le premier, par force, un couronne, et l'autre est une étonnante colonne votive à chapiteau ionique surmontée d'une sphinge. Vous voyez de quoi il s'agit ? Il s'agit d'œuvres visiblement anciennes, on est déjà dans la fin du VIe siècle avant notre ère. Et oui. Un art complètement grec.
Oui, tout à fait, c'est un art grec. La statue à laquelle vous faites allusion sur sa colonne, c'est une sphinge de type naxien, c'est-à-dire qu'on a exactement la même qui provient des sanctuaires qui avaient été offertes par les naxiens, donc les gens de Naxos à Delphes. Ça montre bien immédiatement d'abord la fortune des Cyrénéens. Il faut savoir qu'en quelques années, les Cyrénéens vont tirer de ce pays une richesse tout à fait étonnante grâce à l'agriculture dont nous venons de parler, qui est si propice, mais aussi grâce au silphion, qui est une plante qui va assurer une prospérité tout à fait remarquable.
Et, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que cette plante, le silphion ?
Alors, le silphion, c'est une plante qui est une sorte de panacée universelle. C'est une ombellifère. Elle est décrite parfaitement par Théophraste, elle est décrite par Pline, mais on en trouve plus du tout. C'est une plante qui était endémique donc à la zone cyrénéenne et qui, semble-t-il, n'a pas survécu. On n'en a rien trouvé. Pourtant, dans l'Antiquité, les Cyrénéens la récoltaient, plus exactement la cueillaient, puisqu'on n'a jamais pu l'acclimater grâce à l'agriculture. Donc, on la cueillait et à ce moment-là, on l'a transformée. Et on l'a transformée dans une sorte de suc qui était conditionné dans de la farine. Ces pains de farine imbibés de suc étaient formés, si vous voulez, en pain, hein, ça faisait des petits pains, et étaient exportés ou vendus un peu partout. Cette cueillette était un privilège royal, et toute la dynastie de Batos, donc les successeurs du roi dont je parlais tout à l'heure, qui lui a fondé Cyrène, eh bien, vont avoir la mainmise là-dessus. Et c'est une plante qui est tout à fait remarquable dans le sens que Pline nous dit qu'elle guérit à peu près tout. On a, dès qu'on a mal quelque part, hein, comme on dirait aujourd'hui, dès que l'on a le moindre souci, eh bien, un peu de bulbe, un peu de racine, un peu de tige, un peu de feuilles, un peu de fleurs de silphion, sous des potions, sous des décoctions, sous des... on la mange rôtie, on la mange... Bref, toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, vous êtes guéri. C'est assez curieux. Et on a rien trouvé là-dessus aujourd'hui. Il y a plusieurs missions pharmaceutiques et archéologiques qui ont essayé de retrouver la plante, mais semble-t-il, on n'a pas grand-chose.
Claude Saint-Sage, je rappelle pour nos auditeurs de France Culture que vous êtes conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée de l'art antique, et que vous travaillez sur le passé antique de la Libye depuis près de 30 ans. Revenons un peu à ces sculptures dont nous parlions. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, ce sont ces bustes funéraires sans visage. Ce sont des œuvres grecques ?
Oui, alors...
Très particulier.
Tout à fait, c'est très particulier, c'est même tellement particulier qu'on n'en trouve qu'à Cyrène. Ce sont des statues à mi-corps, pour que vos auditeurs puissent se faire une idée. On a donc des statues funéraires qui sont toujours sculptées à mi-corps. Autrement dit, la partie inférieure n'existe pas. Et la partie supérieure présente, pour les périodes les plus anciennes, une absence de visage. Et à ce moment-là, le visage est remplacé par soit un méplat, soit par une sorte de colonne qui n'est pas sculptée, qui est lisse et qui est surmontée de cheveux. Et donc on a là, d'après tout ce que l'on peut savoir, recoupement et de recherche, on aurait là un souhait de montrer l'indicible, en quelque sorte montrer ce que l'on ne peut pas montrer, c'est-à-dire le visage de ce que l'on ne connaît pas, le visage de ce qui fait la mort. Et ces déesses sont, d'après certaines hypothèses, des amalgames entre le monde grec avec des Perséphones, par exemple, ou des Déméter, donc des déesses chthoniennes, des déesses du sous-sol.
Des profondeurs.
Des profondeurs. Et puis des croyances locales. Donc c'est assez mystérieux. On n'a aucune comparaison nulle part. Et ces déités vont perdurer, puisqu'elles apparaissent dès la plus haute antiquité, dès la période grecque première, dès le 6e avant Jésus-Christ, mais on en a encore jusqu'au milieu de la période romaine. Simplement, à ce moment-là, on a cédé au goût de la représentation, et ces déesses sont désormais avec des visages sculptés. Mais on garde quelque chose de l'ancienne croyance, puisque ces déesses sont la plupart du temps voilées. Et donc on a sur les traits du visage quelque chose de très beau, une sculpture d'un voile qui laisse entrevoir les traits. Et c'est tout à fait remarquable au point de vue de la statuaire.
Justement, Claude Saint-Hès, existe-t-il une école de sculpture grecque propre à la Libye? D'ailleurs, existera-t-elle pour plus tard, à l'époque romaine?
Alors, il est difficile de dire ça parce que on a effectivement... À l'origine, nous en parlions tout à l'heure avec les sculptures de Naxos, la sphinx naxéenne ou ces Koroi, Corée, etc., que l'on peut trouver. On a des pièces qui sont certainement importées de Grèce et qui sont achetées par les Cyrénéens. On a d'autres pièces qui sont de toute évidence sculptées sur place. Mais elles sont à chaque fois avec un style qui peut être rapproché soit du style d'Athènes, soit du style des îles, soit d'un style péloponnésien, etc. On n'a pas, si vous voulez, d'école de sculpture proprement cyrénéenne, à part, comme je le disais, ces statues à mi-corps, ces statues funéraires, mais on ne peut pas dire qu'on ait une école proprement dite. À l'époque romaine, on va avoir là aussi beaucoup d'œuvres et de très très grande qualité, surtout à la période Adrien, la période Antonine donc, mais là on est dans quelque chose que l'on peut trouver par ailleurs. On n'a pas une école cyrénéenne comme on pourrait parler d'une école athénienne.
L'implantation phénicienne, carthaginoise et en tripolitaine est aussi précoce. Elle diffère toutefois radicalement du modèle de la colonisation grecque.
Oui, tout à fait. La colonisation grecque, rappelons-le, il s'agit d'envoyer des gens qui vont rester sur place, qui vont vivre sur place et qui vont faire des filles en quelque sorte. On a la cité mère et la cité fille, et ainsi on se développe, on reste sur place. Alors que dans le monde punique, dans le monde carthaginois, on a affaire à des comptoirs commerciaux que dans notre jargon nous appelons emporia et qui donc sont liés à des conditions économiques et non pas à une présence pérenne. Et les trois villes qui sont donc celles dont on a parlé, Sabrata, Leptis Magna et Oea, vont donner le nom de Tripolis, donc les trois villes, et va donner le nom de Tripolitaine. Mais ce sont à l'origine des comptoirs commerciaux et pas des colonisations de peuplement.
Vous me disiez que le modèle donc sont des emporia. Doit-on y voir un projet politique, un projet économique, c'est évident, mais aussi un projet politique des Carthaginois?
Oui, certainement. Carthage avait besoin de contrôler, si vous voulez, un certain nombre de places, à la fois pour l'économie, ça c'est bien évident, mais aussi politiquement, puisque qui tenait les voies qui permettaient de rentrer dans l'intérieur du pays et au-delà vers l'Afrique noire, permettait de capter ces richesses et permettait évidemment de donner plus de puissance à la cité mère. Mais il faut savoir que ces emporia, si au départ ils dépendent politiquement, complètement de Carthage, peu à peu vont avoir une sorte d'autonomie. Et à partir du moment où ces comptoirs commerciaux vont donc devenir des places autonomes, eh bien, on va garder les structures politiques carthaginoises. On a des suffètes, on a toutes sortes de une organisation qui est une organisation politique carthaginoise, une organisation sociale, mais on ne peut pas dire qu'il y ait de sujétion particulière, si ce n'est une sujétion financière, puisque ces villes payaient un tribut, ou plus exactement payaient des impôts à Carthage.
Les archéologues s'accordent à penser que l'implantation punique remonte au 7e siècle et non pas au 9e siècle avant notre ère. Possède-t-on beaucoup de vestiges puniques dans cette tripolitaine ?
Alors très peu. On a quelques traces de l'urbanisme de l'époque punique qui a été vu à plusieurs reprises lors de fouilles sous les vestiges, ou plus exactement sous les bâtiments romains. Mais il faut comprendre quelque chose de très important, d'essentiel même. En Cyrénaïque, lorsque les Romains s'installent, ils trouvent un substrat qui est grec. Et vous connaissez l'intérêt que portait Rome à la Grèce. Parfois, certains, on peut même dire que c'était une sorte de colonisation à l'envers. Mais les Romains ont donc soigneusement conservé les vestiges grecs qu'ils pouvaient trouver en Cyrénaïque. Alors qu'en Tripolitaine, ils vont se retrouver avec des vestiges puniques. Or, Carthage, c'était bien évidemment l'ennemi, c'était celle qui avait fait trembler les Romains. Rappelez-vous Caton montrant une figue au Sénat et disant « Nos ennemis sont à moins de 3 journées de bateau de chez nous, il faut les détruire hein. ». On a toute cette ces réminiscences de l'école et du lycée encore en tête. Les Romains vont donc souhaiter faire table rase, pour employer une expression célèbre, faire table rase du passé et détruire tout ce qui pouvait appartenir au monde punique. Ce qui veut dire que l'on trouve presque rien de punique dans ces cités de Tripolitaine, puisque les Romains vont installer leur urbanisme en détruisant tout ce qu'ils pourront auparavant.
Le temps tournant, très rapidement, Claude Saintès, je dirais que sous O et A donc, est aujourd'hui l'actuel Tripoli, et donc on en sait relativement peu de choses. Il faut voir Leptis Magna, donc à l'époque de Septime Sévère, pour voir toute la magnificence de la Rome en Libye.
Oui, tout à fait, parce que d'abord, il y a eu des moyens considérables qui ont été mis en route par Septime Sévère pour parer cette ville. N'oublions pas, c'était un projet économique, c'était aussi un projet politique. Il fallait bien montrer la puissance de Rome. Mais on a aussi des villes qui ont été abandonnées dès la fin de la période romaine et qui sont donc recouvertes par les sables. Ce qui fait que lorsque les archéologues italiens d'abord, puis libyens et les missions internationales fouillent ces cités, on a encore en place des vestiges qui sont pour beaucoup en élévation et pour d'autres dont toutes les pierres sont encore là puisqu'elles sont tombées à la suite de tremblements de terre, mais sans problème, qu'on peut les reconstituer si j'ose dire.
Claude Saintès, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La Libye antique, un rêve de marbre, publié à l'imprimerie nationale. La semaine prochaine, Jean-Michel Geneste nous parlera de ses recherches, bien sûr, dans la grotte Chauvet, mais aussi de celles qu'il entreprend en Australie, dans la terre d'Armen. Le Salon Noir était réalisé par Luc-Jean Reynaud à la technique Clément Daté. Vous pouvez, bien entendu, écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.com. Retrouvez 3 années d'archives sur le site inrap.fr.